CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Et bonjour, dans ce MAG d'aujourd'hui, regard sur l'altérité avec Claude Sicre. Claude Sicre, il est philosophe de formation, musicien, au sein notamment des Fabulous Troubadours, mais il a aussi écrit pour Cabrel, Les Têtes Raides, Bombe de Belle et j'en passe. Il est aussi auteur. Il a paru 7 ouvrages, dont le dernier en 2020. Notre Occitanie a été coécrit avec Hervé Di Rosa. Ce qui le caractérise le plus, Claude Sicre, c'est sa passion, son dévouement même pour la culture occitane. Regard sur l'altérité avec Claude Sicre.
C'était Kalpaskako Lazaki. L'altérité la plus grande qu'on puisse trouver dans notre région et dans les autres régions des pays d'Oc, c'est la culture occitane. C'est la plus invisible. C'est la plus ancienne, la plus profonde et la plus invisible. Parce que il y a des milliers de bouquins, mais que personne ne lit, ou très peu de gens le lisent, qui explique toute l'histoire, qui font la relation entre l'histoire de France et toute l'histoire de l'Europe. L'histoire d'ici, l'histoire de France, l'histoire de l'Europe. L'histoire du monde même, des fois. Ensuite, ça fait le lien entre l'histoire des événements, l'histoire quotidienne des gens, avec les paysages qu'on voit, avec tout le patrimoine, et après tout l'esprit. Et ça, c'est enfoui dans les bibliothèques, ou c'est enfoui dans les têtes des gens qui ont vécu ici, qui ont l'occitan comme langue maternelle, qui ont reçu des enseignements quand ils étaient petits, chez eux, des comptines et tout ça, parce que tout est en lien. Et la France découpe tout. Il y aurait la musique traditionnelle, puis la musique ceci, puis après il y aurait les châteaux, tout ça. Mais en fait, tout est lié quand on sait le regarder. Et on sait faire les liens. Et donc c'est un monde qui apparaît, un univers qui apparaît, et qui est caché aux yeux de tout le monde. Parce qu'avec la télé, on peut voir les Papous, les Esquimaux, les Ouïghours, les Chinois, on voit tout, les gens voient tout. Mais ici, ils viennent, ils voient rien. Même les touristes qui viennent ici, ils voient rien. Même les gens qui se sont installés il y a 30 ans, ils voient rien. Ils ne peuvent pas le voir. Parce qu'ils n'ont pas les repères pour le voir. Donc, ils voient une maison, ils disent « Ah oui, c'est un château, voilà, de tel siècle. » Ils ne font pas la relation entre ce château, le monastère qu'il y a là, le poème qu'il y a là, le truc artistique qu'il y a là, le reste de ceci-là, le pont, le comportement de certaines personnes. Ils ne font pas la relation. Et donc, c'est devenu un univers invisible, inaudible, et à tous. Et il faut faire un gros travail. Et en plus, ce qu'il y a de marrant, c'est que même les gens qui ont des trésors dans la tête, ils ne savent pas qu'ils les ont. C'est-à-dire qu'on les a tellement acculturés, et ils ont d'autres trésors, puisqu'ils ont un trésor de la culture française. Mais cette culture qui était leur culture traditionnelle, leur culture maternelle souvent, et qui est celle de leurs parents, de leurs grands-parents et tout ça, ils en connaissent beaucoup, mais ils ne savent pas qu'ils savent. Ils ne savent pas qu'ils savent, ils croient que c'est pas important, on leur a dit que c'était pas important. Donc eux-mêmes ne font pas ils font les relations, mais épisodiquement, intuitivement, comme ça. Mais ils n'ont pas la connaissance, on leur a pas enseigné ça. On a enseigné depuis Paris, tout est découpé, tout est sectorisé, et donc ils peuvent pas faire les relations entre les choses. Donc même eux, qui font les choses, les relations intuitivement, dès que ça devient, ils savent pas. Ils savent pas qu'ils savent. Ils ne savent pas qu'ils savent des milliers de choses. La relation avec le latin, par exemple, et le grec, ils ne le connaissent pas. Moi, ici, des fois, en parlant avec des gens, je trouve des mots qu'on trouve en grec ancien ou qu'on trouve en latin ancien. Et eux, ils ne savent pas d'où ça vient. Ils croient que c'est un patois. Ils ne savent pas. Donc, ils ne savent pas faire la relation entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Par exemple, un instrument, un outil, un instrument de musique, un outil, un truc d'architecture, un truc de culture. Un truc de, ils ne savent pas faire la relation entre, parce qu'ils ne savent pas d'où viennent certaines langues. Ils ne savent pas. Des fois, on leur a fait croire que c'était du français déformé. C'est tellement idiot. Et ils n'ont pas lu de livre dans leur langue. Ils n'ont jamais lu de livre dans leur langue. Alors que s'ils avaient lu des livres dans leur langue, qu'ils avaient appris à lire dans leur langue, ils feraient la relation avec la poésie française, puisque la littérature occitane a été la première en France et la plus forte. Et à marquer toutes les autres. Ils feraient la relation entre des choses qu'ils savent, mais ils pensent que c'est des vétilles. Et voilà. Et la plupart des intellectuels ne le savent pas non plus, les trois quarts. des intellectuels ne le savent pas non plus, ils ne voient pas. Donc c'est un gâchis, c'est ce que j'appelle le grand gâchis français. Dans mon livre là, avec Di Rosa, Notre Occitanie, pour la livre commandé par la région, et encore qui n'a que quelques... qui est incomplet, parce que j'ai écrit deux fois plus, mais enfin bon, là c'est déjà pas mal, ça donne l'idée, voilà. C'est donc l'altérité la plus grande ici, c'est celle de la culture patrimoniale d'ici. Occitane ou pas occitane d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des choses en français, mais qui sont en relation avec la culture d'ici, depuis longtemps. Mais tout ça est ignoré, invisibilisé. Alors je ne dis pas qu'il y a des gens qui voulaient l'invisibiliser un peu, si, à un moment, il y a une volonté d'invisibiliser ça pour apprendre le français, pour tirer les gens de ce qu'on appelait leur ghetto ethnique et tout ça. Mais il y avait des bourgeois qui continuaient, des aristocrates qui continuaient à lire et tout ça. Mais ils ont été marginalisés aussi. Et donc, mais les gens qui invisibilisaient pour, c'était l'État, pour faire progresser les gens en français, pour leur donner du boulot, tout ça. Mais en fait, ils ne savaient pas ce qu'ils invisibilisaient. Il y a des gens qui sont parano, qui disent oui, ils ont voulu tout tuer. Oui, d'un certain côté, c'est vrai. Mais parce qu'ils ne prenaient pas conscience de ce qu'il y avait. Donc, ils ont bétifié la France, voilà. Ce mouvement est un mouvement de bétification de la France. Et maintenant, les gens sont paumés en France. Ils sont totalement paumés. Ils ne savent pas qui ils sont, pourquoi, quand, comment. Ils ne savent plus. Alors, c'est affreux. Les écologistes ne travaillent pas avec les chasseurs. Enfin, je ne sais pas. Ou les pêcheurs. Je ne sais pas. Les musiciens, ils sont tous fixés sur les États-Unis. Avec bonne raison, d'ailleurs. Moi, je l'ai été longtemps. Mais ils ne savent pas faire le lien. Alors ils font des trucs, ils savent pas, ils font des concerts, mais ils savent pas pourquoi. Enfin, qu'ils parlent qu'à une certaine catégorie de gens. Ils savent pas faire le lien avec ça et puis des paroles qui touchent les gens. Comme, par exemple, souvent j'ai vu des trucs de blues dans le coin là. Et le blues, alors les gens sont obligés de faire de la virtuosité musicale parce qu'ils ne parlent pas aux gens. Ils parlent en anglais, ou même s'ils parlent pas en anglais, en français, mais ils ne parlent pas des soucis des gens. Ils jouent pour une catégorie de gens simplement. Il joue pas pour, comme, alors que le blues aux États-Unis, c'est joué pour toute la communauté, c'est-à-dire le village, le quartier, de la ville et tout ça. Puis avec des choses qui portent, qui ont à voir avec soit des individus, des trucs individuels, mais quand même par derrière avec une communauté, avec une actualité collective, quoi, disons. Et là, ici, non. Alors, ils ont rien à dire. Les gens dansent pas dans les concerts de blues, alors que là-bas, aux États-Unis, ils dansent. Moi, je suis allé, j'ai vu. Et puis, ils savent apprécier les paroles, et puis ils savent battre des mains, ils savent faire tout, et ils dansent des fois. Et c'est un folklore, quoi. C'est un vrai folklore très profond. Et ici, bon, mais ils ne savent pas, alors qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, les gens, ils passent des heures à s'entraîner pour faire de la virtuosité à la guitare, mais on s'en fout complètement. On s'en fout complètement. Et ça, c'est vrai pour tous les genres de musique, c'est vrai pour le théâtre, pour la littérature. C'est vrai pour ça. Les gens n'ont plus rien à dire parce qu'ils sont abêtis. Et donc, c'est un gâchis parce qu'il y a des gens très intelligents, très doués, mais ils sont abêtis par cette altérité qu'ils ne comprennent pas comme telle.
CFM, dans ce mag, nous écoutons Claude Sicre et son regard sur l'altérité autour de la culture occitane. Claude Sicre, qui a aussi fait partie des fabuleux troubadours. Et on continue à l'écouter sur scène cette fois.
Je m'appelle sans pareil, je te le dis, c'est moi. Qui lève et couche le soleil, qui fait et défait les rois.
Je m'appelle Jésus Sicre et je circule en tout lieu. Ma maman, c'était Marie. Mon papa, c'est le bon Dieu.
Je suis le début du monde, je vivrai jusqu'à sa fin. Je couche avec la Joconde, je suis pote avec Jospin.
Si tu mets pas de capote quand tu couches avec Jospin, au moins garde la culotte, il pourra pas aller très loin.
Dès le début, t'attaques bas. Ce que tu dis n'est pas très beau. Heureusement que je suis là pour relever le niveau.
Je suis pas garde-barrière pour les passages à niveau. Je suis qu'un simple trouvère qui s'amuse avec les mots.
Des jeux de mots sans un sucre, c'est la forme sans le fond. Le sommeil est le seul truc qui lâche toi de profond.
C'est rigolo, tu marques un point, mais c'est grâce à ta mémoire. Cette vanne, c'est notoire, je l'ai sorti hier matin.
Ma mémoire va très loin, écoute ça, je me souviens de quand j'étais il y a longtemps dans le ventre de ma maman.
Je fais plus fort, je me souviens de quand j'étais chez mon daron. Que je me disais, putain, s'il se masturbe, je suis marron.
S'il avait pu deviner ce que t'allais devenir, je suis sûr qu'il l'aurait fait, tu serais pas là à mentir.
S'il avait fait, quel dommage, alors le monde aurait perdu un des plus grands personnages qu'il ait jamais connu.
T'es mégalo et tu péror, mais faudrait me rabotisser, ou que tu grandisses encore si tu tiens à mégaler.
T'es galé ? tes galets, c'est des cailloux qui ne valent pas grand-chose. Moi, chaque mot de ma prose est en soi un vrai bijou.
Caillou, bijou, oui, bougeux, d'où tu peux en faire tes joujoux. Mais ne me cherche pas des poux ou je t'envoie dans les choux.
Fais gaffe à toi, en jeu, tu ne racontes que des c'est. Je vais te monter le dé, on est monté à coups de paix.
Ne me parle pas d'épée, je suis la plus fine lame conceptuelle métromane qu'il y ait dans le quartier.
Métromane, Kézako, je connais les pétomanes, kleptomanes, nymphomanes, opiomanes, automanes, sonomanes, poudomanes, dodomanes, doudomanes, opiomanes, homomanes, palémanes du métro.
Nous en fais pas tout un plat. Si tu comprends pas mes mots, va voir la rousse qui est là, qu'elle te prête son dico.
CFM, en Tarn-et-Garonne. Le mag.
C'est effectivement assez inhabituel d'écouter les Fabulous Troubadours sur CFM, mais on est dans le mag avec Claude Sicre. Vous venez de l'entendre sur scène. On poursuit notre conversation autour de la culture occitane.
Tu vois, ça c'est un tambourin. Bon, ça c'est un tambourin neuf. Mais je suis en train d'en reconstruire un vieux. Mais tu vois, là, il y a des cymbalettes, ce qu'on appelle les cymbalettes, qui font ce bruit-là. Tu vois quand tu tapes là. Tu vois quand tu tapes ça. Et là, moi, j'ai mis un truc que j'ai vu sur des gravures anciennes, des anneaux. Tu vois. Et les anneaux, tu vois, ça fait ça. Tu vois. Et alors, c'est pas le même son. Ça change le son. Tu vois. Ça change le son et ça change le look. Tu vois, je travaille à tous ces petits trucs. Alors ça, je le fais refaire à l'ancienne par le. C'est une lame métallique. C'est une lame métallique très fine. Et il y a deux boules qui tapent dessus de chaque côté. Et toi, tu peux tendre la lame ou la détendre. Tu vois, tu la détends, tu peux jouer avec, tu vois, moi je joue plein de trucs. Hein. Des trucs rythmiques, mais après je fais des trucs. Et puis après, il y a toutes sortes d'autres instruments que je fais.
T'as un truc pour les montreurs d'ours?
Ah oui, le truc pour les montreurs d'ours, ça c'est. Il y en a deux choses. Il y a un tambourin pour les montreurs d'ours avec les cymbalettes qui sont dedans, dans un cercle. Et ensuite, ils avaient. Moi, quand c'était moi qui avais fait l'enquête sur les montreurs d'ours pour le Conservatoire Occitan, à la fin des années 70, début des années 80, donc ça fait 40 ans, tu vois. Et j'avais fait l'enquête auprès de tous les Arigeois qui étaient allés aux États-Unis, enfin, tous les gens qui. Les vieux, quoi.
Allez, Morfin, gagne ton pain. Danse sur le tambourin. Alors là, c'est les cymbales.
Alors Le forgeron d'Espinasse m'en a refabriqué. Déjà, il y en a qui vont partir dans des musées en Ariège. Et puis après, un musée, ce qui a succédé au musée des arts et traditions populaires. Puis peut-être au musée de l'homme aussi. Et puis ça va partir dans des musées. Puis ensuite, il en vendra, ou on en vendra ici. Enfin, je ne sais pas, on en vendra un peu, quoi. Voilà, des cymbales du montreur d'ours. Voilà.
La culture occitane, c'est pas qu'une langue, c'est. Tu disais des danses, de la musique, des instruments particuliers. Ça ressort maintenant aussi avec la toponymie. C'est quelque chose que géographiquement, on voit quand même au quotidien, même si on ne peut pas forcément l'identifier. Qu'est-ce que tu as fait, toi, pour essayer de valoriser la culture occitane, pour essayer de la rendre plus contemporaine?
Moi, je fais depuis 45 ans, je fais tout ce que je peux. C'est-à-dire, je l'ai fait par la musique. Bon, c'est vrai, par la musique, la danse un peu, tout ça. Ben, j'ai fait par la musique parce que j'ai commencé à étudier la musique de nos régions ici. Enfin, moi, j'ai commencé par étudier la musique des autres pays. J'ai voyagé, bon, d'abord les États-Unis, puis après je suis allé au Maroc, je suis allé dans d'autres pays. J'ai étudié la musique des autres parce que la musique de variété ou la musique à la mode, au bout d'un moment, je l'ai bien connue quand j'étais petit, mais, enfin, quand j'étais jeune, adolescent, mais après, j'ai eu envie de chercher autre chose. Et... C'est surtout les USA d'ailleurs qui m'ont donné envie de chercher ailleurs parce qu'ils me disaient alors qu'est-ce que tu joues toi? Et je pouvais jouer que des trucs américains, c'était ridicule aux États-Unis. Et les autres Français aussi. Des fois on s'est trouvé à trois Français, on pouvait chanter au clair de la lune ou alors des chansons américaines. On n'avait pas quelque chose qui se dansait, qui se tapait des mains, qui se jouait, qui. Tu vois. Et voilà, donc ça m'a donné envie de m'intéresser. Et je me suis intéressé à ça, puis bon, j'ai joué, j'ai fait un groupe, puis un deuxième. Et donc j'ai fait ça, et puis je me suis occupé de recherche donc, sur la musique et puis sur la culture en général. J'ai fait des conférences, j'ai fait des petits bouquins sur la musique ou autre chose, et puis j'ai beaucoup organisé de manifestations, voilà, surtout à Toulouse. Et voilà, puis voilà, maintenant je suis ici et j'organise toujours des trucs à Toulouse, mais ça c'est par l'ordinateur et le téléphone, parce que j'habite plus, même si j'y vais des fois. Et puis après, la mairie de la Guépy m'a demandé de m'occuper, ils me connaissaient de nom, ils m'ont demandé de m'occuper de l'université de la Guépy, ce que je fais maintenant depuis 6 ans, c'était, je pense 6 ans par là. Voilà. Et j'essaie de faire connaître des choses, par les films, par les conférences, par les films, par la poésie, par la musique, par les balades onomastiques. Justement, là, tu vois, tu parles de la toponymie, de l'onomastique, c'est de l'anthroponymie aussi, les noms de gens et tout ça, tu vois. C'est marrant parce que je prends souvent cet exemple parce que c'était assez fabuleux. C'était il y a quelques années, j'étais avec des gens qui n'étaient pas ici, qui cherchaient un endroit qui s'appelait Pêche, je ne sais pas quoi. Et à un moment, on arrive à un croisement, j'étais avec une voiture, il y avait une route qui descendait, une route qui montait. Et il dit, on va prendre là, ça doit être là. Et j'ai dit, non, ça ne va pas être là. Il m'a dit, pourquoi? Mais parce que ça s'appelle Pêche. Pêche, c'est quand ça monte, c'est un mot. Donc il faut prendre à droite. Ah ouais, on ne savait pas. Il y a des choses comme ça, il y en a plein tout le temps. Et plus importante, parce que ça, bon, ça peut être un détail, tu vois. Mais tout ça, quand tu en connais plein, et tout ça, tu sais plein de choses. C'est triste, hein, vraiment, c'est le gâchis, c'est triste. Ce qui m'attriste, c'est Vaour. Ça m'attriste, Vaour. Ouais. C'est beau ou bao, bao ou beau. Et quand les gosses disaient bon, on leur disait non, il faut parler en français, donc va où. Mais en fait, et après, donc on les désapprend à faire une diphtongue ou une triphtongue. Et après, quand ils vont à l'école, on leur apprend l'anglais. Et on dit, ah, mais vous n'êtes pas doué, vous êtes en français, vous êtes un paysan de la campagne, donc vous n'êtes pas doué pour l'anglais. Mais au contraire, avec l'occitan, tu arrives à prononcer l'anglais, l'allemand, le russe, le chinois, le catalan, le portugais, 100 fois mieux qu'en français. Tu vois, donc c'est important de garder cette. Alors ils disent Vaour, ça ne veut rien dire. En plus, en écrivant Vaour, alors que c'est Bao, ils ne comprennent pas le lien entre Vaour et Lavorette ou Lavor, tout ça. Parce que ça veut dire quelque chose, Bao. Tu vois, Baorette, ça veut dire quelque chose. Donc ils ne font pas la liaison, ils ne font plus les liaisons. Entre rien, c'est. Voilà, entre. C'est le gâchis complet. Et ce qui me. Bon, c'est le gâchis. Et alors, ce qui me gêne le plus, c'est les jeunes, tu sais, qui arrivent, qui sont un peu écolos, qui veulent faire de la musique et tout ça. Et alors, c'est les plus ignorants de tous. Et ils sont presque fiers d'être ignorants, quoi. Tu vois, ils se moquent de l'air. J'ai vu au marché de Saint-Antonin, ils se moquaient des gens qui avaient l'accent. C'est idiot. Surtout qu'ils n'en manquent pas en anglais, par exemple. Par exemple, ils prononcent Internet. Eh bien, Internet. En anglais, c'est pas Internet, c'est Internet. Mais en occitan, c'est quoi? C'est Internet, parce que le IN se prononce IN aussi, et tu mets le T à la fin. Alors, ce dont ils se moquent ici, c'est quand les gens prononcent les noms, les T de la fin, ou les, donc ça, ils s'en moquent. Mais dès que c'est l'anglais, ils s'en moquent plus. Donc, ça veut dire que c'est pas l'accent qui les marque, ou la manière de prononcer, c'est l'origine. Et c'est une origine sociale. Donc les bobos qui viennent de Paris avec un héritage de 300 000 euros pour acheter une maison et faire je ne sais pas quoi, ils sont là. Tu vois, et puis ils se moquent des vieux aussi. Alors que, par exemple, en culture bio, en culture écologique et tout ça, ils connaissent, les vieux connaissent mille fois plus de trucs qu'eux. Et mille fois plus de trucs dans la livre. Mais il faut parler avec eux longuement. Il faut s'y intéresser, tu vois. Je ne sais pas. C'est le gâchis. Et à Saint-Antonin, et dans la région, ce gâchis est assez grand, je dois dire.
Les perspectives.
Moi, mes copains qui sont occitanistes, ils ne sont pas du tout d'accord avec moi. Je suis très, très solitaire dans le mouvement occitan. Enfin, pas seul, solitaire en groupe, quoi. Il y a un petit groupe ici en Provence, en Auvergne, et tout ça, qui défend les mêmes idées que moi. Enfin, je suis un peu le. Comment dirais-je? Je suis un peu le leader de ce groupe informel. Mais les autres gens sont très, 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 très. Sont souvent très hostiles à ce que je dis. Ce qui fait que j'ai toutes les hostilités. Moi, les gens qui sont anti-occitans, les gens qui sont pro, tout le monde me tombe dessus. C'est bien. C'est bien. Et bon, eux croient que c'est des trucs économiques, sociaux, politiques, ça, alors que ça n'a rien à voir, en fait. La France est tellement dans la mélasse intellectuellement, tu vois. Je vois bien les intellectuels français, les artistes français, tout ça. Ils sont tellement dans la mélasse qu'ils sont à la recherche d'autre chose, alors ils savent pas quoi. Alors ils vont en Nature et Progrès, en Nature et Découverte, tu vois, pour chercher des trucs exotiques. Mais ils savent pas que t'as les mêmes ici et qu'ils sont liés à ici. Puis ils comprennent rien. C'est l'ethnomusicologie ou l'ethnologie de Nature et Découverte, quoi. C'est des petits trucs, ils achètent des petits gadgets, tout ça. Mais ils comprennent pas la fonction de chaque gadget, de chaque outil, de chaque truc, tu vois. Et ils achètent, quoi, ils consomment. Ce que je dis, c'est que la culture occitane, elle peut leur amener tout ce qui leur manque pour comprendre. D'ailleurs, pour comprendre, c'est marrant. Moi, je me suis retrouvé des fois avec des Parisiens, surtout des Parisiens. Hein. Mais en fait, il y a des gens d'ici aussi qui sont aussi ignorants. Mais dans des pays, au Maroc, par exemple, pour voir les Berbères, pour voir aux États-Unis, mais ailleurs, en Italie, ailleurs, en Hongrie, je ne sais pas où, hein, tu vois, en Syrie, je ne sais pas, en Amérique du Sud. Et ils ont un regard. C'est la France qui leur a donné ce regard, un regard très, très, très français fermé. Et ce regard très français fermé, comme ils sentent qu'ils ont ça, ils ont un regard ouvert débile. L'exotisme à tout craint, tu vois. Ils passent de l'un à l'autre, parce qu'ils ne savent pas se repérer. Et alors donc, ils sont hyper, hyper exotistes, gna gna, le moindre truc, mais ils ne comprennent pas la fonction, ni de la musique, ni des objets. Et après, le reste du temps, ils sont très, très franco-français, très fermés. Ce qu'ils ont vécu dans leur famille, souvent, ils reproduisent. Ils veulent se reproduire en s'y opposant. Alors donc, ils font le contraire. Mais c'est comme les gauchistes d'une certaine époque. Ils avaient des parents bourgeois, ils voulaient s'opposer à tout. Et ça donnait des résultats, des idioties, tu vois. Moi, j'ai vécu mai 68, j'ai écrit un article, d'ailleurs. En 2018, sur mai 68, c'est le gâchis complet. Mai 68, c'est le gâchis complet, c'est le manque d'invention complet. Tu vois, les gens, ils disent l'imagination au pouvoir, mais d'abord, le slogan est idiot, parce que l'imagination, c'est contre le pouvoir, c'est un contre-pouvoir. Donc déjà, c'était idiot, mais eux, ils ont fait... Il n'y a aucune invention. Mai 68, il n'y a rien d'inventé, c'est que... C'est rien, les slogans, ils sont débiles, tu vois, les manifestations, c'est débile, tu vois, il n'y a rien d'inventé, tu vois, la France, c'est quand même un pays de non-invention sociale, d'ensemble. Après, il y a des inventeurs, il y a des grands inventeurs, des gens individuels, des individus, ou des laboratoires, ou des choses comme ça, qui se retirent de la truc, et justement, les Français ont beaucoup d'imagination là-dessus. Mais cette imagination collective par rapport à l'identité du pays et à l'identité des autres, je pense que la France, c'est le pays le plus bête qui existe au monde. Et ça vient de son histoire de la négation de tout ce qui n'était pas valorisé à Paris à un moment, tu vois, à la cour et tout ça. C'est une histoire spécifique, la France, il faut la comprendre. C'est ce que j'essayais de faire passer dans mon bouquin. Et alors donc, les perspectives, bien, c'est de faire les choses bien. Et à un moment, poum, ça va sortir et tout le monde va se jeter dessus, et sur la Bretagne, sur le Pays d'Oc, tout le monde va se jeter dessus. Alors c'est là qu'il faudra se méfier, parce qu'ils vont reproduire aussi l'exotisme débile qu'ils font avec les Indiens Mapuche, ou je ne sais pas qui, et donc là il faudra se méfier. Mais moi je pense que ça, voilà, la France a besoin non pas d'un exotisme, mais il a besoin des ailleurs intérieurs. Il n'y a que les ailleurs intérieurs qui peuvent leur dessiller les yeux. Moi, j'ai vu des gens qui restaient 10 ans aux États-Unis, ou plus même, qui revenaient ici, qui avaient un regard critique sur la France, avec des bonnes critiques. Mais en fait, ils gardaient le regard français. Parce qu'ils ne savaient pas analyser pourquoi la France était comme ça. Ils disaient, ah oui, vous avez une drôle de mentalité, ou je sais pas quoi, ou c'est le jacobinisme, des conneries, tu vois, des trucs qui n'ont pas de sens, qui n'ont pas de profondeur. Voilà. Et moi, donc, moi, je suis extrêmement optimiste par rapport à mes camarades, mes copains, mes alliés ou mes adversaires de ce mouvement. Je suis très optimiste, alors qu'eux, ils sont très, très pessimistes et qu'ils rêvent de, je sais pas quoi, de politique, d'autonomie, je sais pas quoi. Enfin, ils n'écoutent pas les gens, ils ne se rendent pas compte. Voilà la morale de mon histoire.
Claude Sicre était dans le mag sur CFM. Mag, retrouve en podcast sur cfmradio.fr. Tout de suite, les infos.